Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois en interview numéro 2 Jean Guillonny. Bonjour Jean.
Bonjour.
Jean est président de l'Institut de Transition Foncière et il a créé une société qui s'appelle Aqua Alta, dont nous avons parlé précédemment. J'aimerais bien voir comment Aqua Alta, justement, descend sur le plancher des vaches. Comment fait-on sur les territoires à essayer de se confronter quand même avec des paysans qui justement n'ont pas nécessairement le même avis défendent leur pré carré.
Oui, c'est vrai que en plus sur mes sujets de transition foncière, de revitalisation des territoires, en prônant en plus un urbanisme qui rompt un petit peu avec. Avec la disponibilité infinie du champ de patates, on est confronté à ce problème-là. La vérité, c'est que la première étape, qui fonctionne déjà beaucoup, c'est d'améliorer la connaissance de tout le monde. Les élus, toutes les parties prenantes, les agriculteurs, vous les avez cités aussi, les acteurs économiques du territoire aussi, notamment en leur révélant certaines choses, en leur révélant par exemple le foncier invisible. Déjà.
Oui,
on est dans beaucoup de territoires. Moi, je travaille par exemple avec l'agglomération de Chinon, mais il y en a d'autres où on vous dit moi de toute façon j'ai pas de foncier disponible. Généralement, là, ça commence comme ça.
Ouais, voilà.
Ouais. Ah puis bon, quand on prend le temps de regarder, on nous disait j'ai une friche peut-être. Voilà. Et puis, en fait, généralement, il y a très peu de territoires où il y a une friche. Hein.
Oui, bien sûr, évidemment. Si on a une, il y en a plusieurs.
Voilà. Moi, lorsque je m'occupais d'Action en cœur de ville, on avait fait faire un grand recensement, on avait financé un grand recensement des friches dans l'agglomération d'Angoulême. On s'est aperçu qu'il y avait plus de 1300 friches qui représentaient 4400 hectares.
Après,
juste à Angoulême.
Elles ne sont pas toutes mutables.
Alors non, mais en fait, ça représente 4400 hectares. De toute façon, l'enveloppe ZAN d'une aglo comme Angoulême, c'est autour de 60-70 hectares par an.
Oui.
Je sais pas si vous voyez le nombre d'années disponibles dans l'enveloppe. Voilà. Donc la première étape, souvent, c'est cette étape de connaissance qui peut être aussi une étape de connaissance des apports, hein, des services, y compris parfois que peuvent rendre financièrement des choses qu'on pensait... inutile dans le monde d'avant. Par exemple, les espaces naturels, agricoles et forestiers, on en calculait pas le potentiel agronomique,
on en calculait pas le potentiel
de séquestration carbone, on en calculait pas le potentiel le potentiel hydrique, on en calculait pas tout ça. Et ça, aujourd'hui, ça a une valeur, forte.
Je vois que vous êtes passionné, vous ne laissez pas finir ma phrase, mais c'est vrai que un des points extrêmement importants, c'est de dire comment fait-on pour convaincre par exemple les agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont payés pour produire. Ils aiment produire. Comment fait-on pour leur dire d'un seul coup, cette partie-là de votre patrimoine, vous y touchez pas. Celle-là, elle va être inclue dans un programme de préservation des sols. Celle-là, on va laisser tranquille les petits vers de terre. C'est compliqué quand même.
Mais moi, je pense que, au contraire, la sobriété foncière, d'abord, faut repartir de là, est l'allié de l'agriculture. Premièrement, parce que elle préserve les terres agricoles, les terrains à bâtir. Récemment, j'étais invité à réagir sur la chute des terrains à bâtir en France. Qu'est-ce qu'un terrain à bâtir ? Une parcelle agricole. Donc, la chute des ventes de terrains à bâtir, c'est la préservation des parcelles agricoles. Donc, la sobriété foncière, d'abord, c'est quand même l'allié de l'accès au foncier, notamment autour des grandes agglomérations, c'est-à-dire dans des terres qui sont fertiles. Donc, le fait de préserver de l'urbanisation.
Pour réduire le périurbain.
Le fait de préserver de l'urbanisation, effectivement, ces terres-là, c'est quand même faciliter le maintien des exploitants et l'accès aux terres agricoles. Deuxièmement, vous avez, une question de modèle économique qui est centrale. Pourquoi est-ce qu'aussi, parfois, en revanche, ça peut être du côté des agriculteurs qu'on a cette velléité d'urbanisation? C'est parce qu'il y a un non-dit en France qui est que une bonne partie de la retraite des agriculteurs est fondée sur l'artificialisation de leurs terres au moment de la retraite, s'il n'y a pas reprise de l'entreprise et s'il n'y a pas reprise de l'exploitation. Ou l'artificialisation même partielle de leurs terres, parce qu'on en artificialise un bout pour financer la retraite. Donc on voit que le cœur du sujet, c'est quand même un modèle, une question de modèle économique. Et donc, du coup, il faut savoir intéresser, et donc c'est là qu'après on rentre dans un...
Comment fait-on dans justement une, pour intéresser voilà, les jeunes agriculteurs?
On rentre dans une technique, voilà, ouais. C'est qu'il faut savoir intéresser financièrement les agriculteurs ou à la transformation des pratiques, ou à la préservation des sols, ou au passage à l'agroforesterie, ou à un certain nombre de pratiques qui vont avoir un impact extrêmement positif pour eux d'abord. C'est pas des pratiques qui vont avoir un impact positif pour les restes des urbains, c'est pour eux d'abord. Parce que leurs sols seront
là, on
plus
parle,
riches
on parle en... d'agriculteurs qui ne font pas de l'élevage. Parce que quand on fait de l'élevage, la problématique, elle est vraiment différente. Pour le coup, les animaux ont besoin de sol.
Oui, oui, mais ça dépend. Parce que quand on fait de l'élevage... Autrefois, il y a un excellent, d'ailleurs, roman graphique que je vous recommande, que je recommande à tous les auditeurs, qui s'appelle « Nos champs de bataille » ou « Les champs de bataille » sur le remembrement, qui est sorti, une enquête graphique qui est sortie sur le remembrement agricole il n'y a pas longtemps, qui démontre bien que la tradition du pâturage en France, mais partout en Europe, normalement, elle se faisait dans des endroits qui étaient plantés d'arbres.
Il y a bien longtemps.
Dans des vergers dans des sous-bois, etc. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'opposition entre ces choses-là. La seule chose à faire, c'est de trouver un modèle économique. Et pour ça, il y a diverses manières où il y a des manières de contractualisation. C'est-à-dire que les collectivités ont désormais des outils contractuels où elles peuvent inciter, moyennant une contribution financière, à ce changement de pratique. Il y a le portage foncier. C'est-à-dire, on peut dire aussi, il y a des foncières agricoles qui se développent, comme Terre de Liens ou d'autres, qui permettent, par exemple, déjà le passage au bio. Mais parce que vous êtes celui qui porte le foncier et vous le donnez à des conditions préférentielles.
Oui, mais aujourd'hui, le bio est moins acheté parce qu'il coûte plus cher, parce que le panier de la ménagère, il a changé.
Malheureusement, l'urbanisme n'est pas la réponse
à tous les problèmes économiques, aux enjeux de transition.
Mais
après, quand on décide de créer Aqualta, on se met quelque part dans une situation peut-être vampirisé par certains lobbying, puisque évidemment que ce soit en Europe ou que ce soit en France, le mot lobbying est un mot de peu de vertu. Donc comment fait-on pour garder le cap
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme sur tous les sujets... sur la transition foncière comme sur tous les sujets de transition écologique, vous avez des acteurs qui vont chercher à faire du greenwashing. Le sujet, c'est de savoir déterminer le chemin de crête où un acteur a une volonté sérieuse de changer ses pratiques et donc vous appelle pour dire il faut les évaluer, il faut évaluer ma stratégie de production de logement ou de commerce ou d'immobilier en général, etc. Ou ma stratégie foncière si je suis une foncière, etc. J'ai envie de la changer. De quels nouveaux indicateurs je dois me doter? Quel nouveau montage je dois adopter pour monter mes opérations? Si on est dans cette démarche sincère, oui. Si on est dans une démarche d'affichage, en fait, c'est définir ce chemin de crête qui est un peu délicat.
Donc ça veut dire que pendant 6 mois, 1 an, vous allez vous poser et pas nécessairement prendre des discussions avec tel ou tel acteur qui serait en envie de vous vampiriser.
Ça veut dire
garder votre cap.
Ça veut dire que. Oui, moi j'ai arrêté ça parce que j'avais envie de faire plus concrètement de la sobriété foncière, de la revitalisation des territoires et de la préservation des sols. Donc je vais pas dévier de ce cap et de ces trois axes. Oui.
Donc demain, il y a une collectivité qui vient vous voir en vous disant bon ben voilà, on a certaines problématiques sur notre territoire et on aimerait que vous interveniez. C'est l'équipe qui est derrière vous, qui est avec vous. C'est qui, c'est quoi?
Alors, ça vient d'être créé. Donc aujourd'hui, j'ai un réseau de partenaires surtout, ouais. de partenaires qui sont ingénieurs, doctorants, spécialistes ou de foncier ou d'immobilier ou de modèle économique, on va dire plutôt de l'aménagement, avec qui on et des compagnons de route aussi avec qui on répond, architectes, urbanistes. Là, je suis à Chinon avec Myth Architecture qui a été récemment le palmarès des jeunes urbanistes et qui intervient beaucoup dans les territoires ruraux et dans les villes intermédiaires. L'idée, c'est de pouvoir effectivement répondre aux villes qui aujourd'hui voient arriver ou un enjeu de risque, vous l'avez dit.
Bien sûr.
Donc, trait de côte, ou un enjeu de réglementation, zéro artificialisation nette, etc.
Oui, ils savent pas comment
autant
gérer.
Autant d'enjeux qui impliquent une complexité souvent et une ingénierie, voilà, assez pluridisciplinaire, et d'élaborer avec eux quelque chose qui dépasse la simple mise en œuvre d'une réglementation. D'élaborer avec eux une remise en perspective de leur urbanisme.
Mais ça, c'est sur du long terme.
Ben oui, mais c'est indispensable.
C'est du court terme.
Non, vous avez des territoires, heureusement, qui savent s'y mettre, y compris en cette période, c'est-à-dire en 2025, à un an des élections, vous avez des territoires qui, nous ont appelé, ouais, disent, voilà, je vais remettre à plat toutes mes OAP. C'est rare de faire ça un an et demi, et pourtant, y en a qui ont, voilà, compris qu'ils pouvaient plus proposer la même chose en 2026 que ce qu'ils avaient proposé il y a 6 ans, que ce soit pour des questions de protection contre les inondations, pour des questions de sécheresse, pour des questions, etc. Et donc, qui veulent réinterroger refaire le lien mieux entre la vision et l'opérationnel, c'est-à-dire qu'ils veulent réinterroger leur stratégie et leur planification urbaine.
Comment fait-on sur un territoire pour faire rêver les électeurs à un an des élections, un an et demi des élections, quand tous ces électeurs sont en attente de logement, voire de travail, et on leur dit quelque part, ben non, écoutez, je suis désolée, là, au lieu de faire cette ZAC et de construire, je sais pas, une soixantaine, 70 logements, 80 maisons individuelles, on va faire un petit potager.
Alors,
j'exagère un peu.
Il y a un peu deux questions dans votre question pour y répondre rapidement. Loger n'est pas forcément artificialisé, donc je pense qu'un maire, il doit expliquer que il n'y a pas besoin de consommer nécessairement massivement du champ de betteraves pour loger ses habitants. Mm-hmm. Il sait le faire aujourd'hui. Mm-hmm. Il a des biens vacants, il a de la disponibilité foncière, même sur terrain nu si vous voulez, mais dans de la densification douce, etc. Il sait le faire aujourd'hui. Et deuxièmement, je pense au contraire que le sujet d'un centre-ville renouvelé, recyclé, plus dynamique, le sujet d'une zone d'entrée de ville qui a muté, qui est plus multifonctionnelle, qui n'est pas à moitié en train de tomber dans la vacance elle-même, ouais, etc., qui est en train de se requalifier, le sujet d'une entrée de ville qui va être mieux, enfin voilà, je pense que ça parle beaucoup aux électeurs aussi. Et que du coup ils sont capables d'en apprécier la juste valeur, outre des sujets beaucoup plus lourds même pour eux, qui est qu'ils peuvent très bien apprécier la meilleure protection contre les risques. Lorsque des travaux d'ingénierie urbaine, agro-pédologique sont faits autour, par exemple, de la gestion d'une rivière ou des berges d'une rivière dans une ville, les habitants peuvent comprendre les choses sont aussi bien mises en œuvre que en fait c'est une meilleure protection contre les risques pour eux, qu'il y a des enjeux aussi d'ailleurs de santé environnementale, etc.
Je pense qu'on n'a pas balayé tous les sujets, cher Jean, mais on a commencé à tirer le fil, et surtout je souhaite bonne chance à Aqua Alta.
Merci
encore
beaucoup.
Une fois, protégez-vous, ne vous inondez pas.
Ménagez vos territoires.
Voilà, ménagez vos territoires. Et on se donne rendez-vous dans un an pour faire un petit bilan.
Avec plaisir. Merci
à bientôt
beaucoup
sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.